Radio Spirale. C'est entouré de Jean-Marc Desjans et Madeleine Gagnon que Paul Bélanger donnait en juin 2012 la parole au poète et plasticien Pierre-Yves Soucy. L'entretien, qui avait lieu à la librairie Olivieri dans le cadre du 13e Festival de la poésie de Montréal, avait lieu à l'occasion de la parution du numéro 23 de la revue Il Particolare, consacré au travail poétique de Pierre-Yves Soucy.
Bonsoir, bienvenue à cette rencontre dont le prétexte est Pierre-Yves Soucy. Merci à la librairie Olivieri d'accueillir cet événement du Festival de poésie dans les premiers de la semaine, toute la semaine jusqu'à dimanche. Il y aura donc beaucoup d'événements auxquels vous êtes conviés. Cet événement est également capté par Radio Spirale et vous pourrez l'entendre ou le réentendre ou dire à vos amis de l'écouter dans quelques semaines. Il y a toujours un petit délai de quelques jours ou quelques semaines. Bien, alors, je ne sais trop où la rencontre va nous mener. Toujours est-il que le prétexte de cette rencontre est le passage parmi nous de Pierre-Yves Soucy. Et nous avons, je vous explique un peu le trajet de la prochaine heure. Nous allons, dans un premier temps, je vais présenter tout le monde, bien sûr, et par la suite, nous allons entendre de brefs extraits de Pierre-Yves Soucy pour entamer la rencontre, après quoi je passerai la parole à Madeleine et Jean-Marc, et moi-même, je m'exprimerai sur la chose, si je puis dire. Nos invités pour accompagner... Pierre-Yves Soucy, Madeleine Gagnon poursuit depuis plus de 40 ans une œuvre importante qui a été saluée par plusieurs prix et particulièrement par la remise du prix Athanase David pour l'ensemble de son œuvre. Elle a écrit essais, romans, poésie, Les femmes à la guerre, par exemple, Les femmes et la guerre, qui est un essai remarquable, et le tout dernier livre d'essais publié aux éditions du Norrois. Je donne ma langue au chant, qui est un recueil de textes qui rassemble plusieurs années d'écriture. Jean-Marc Desjans, également une œuvre importante qui a été saluée également par de nombreux prix. Il a été enseignant pendant 33 ans. Son œuvre poétique lui a également valu plusieurs prix. Entre autres, on peut signaler le Grand Prix du Festival international de Trois-Rivières en 1994 et en 2005. Et en 2005, pour 20e siècle, on pourrait dire qu'il a eu le tour du chapeau, avec le prix des terrasses Saint-Sulpice et le prix du gouverneur général pour 20e siècle. Il a également publié, ça on le sait moins, mais un livre, un essai anthropologique intitulé « Errance » aux éditions du Musée canadien des civilisations, dont l'intérêt a été souligné par Claude Lévi-Strauss. En 2010, il a remporté au marché de la poésie de Paris le prix international de poésie Antonio Vicario pour l'ensemble de son œuvre. Et il a publié tout récemment, en 2012, au Poète de Brousse, « Qu'importe maintenant ». Voilà pour il a également publié un essai, un petit essai, Artaud Gauvreau, chez le même éditeur, Poète de Brousse. Enfin, Pierre-Yves Soucy, né à Mont-Laurier, a été professeur en politique à l'UQAM au début de sa carrière, si l'on peut dire. Par la suite, il a émigré vers la Belgique, où il a travaillé pendant de nombreuses années, entre autres à la Bibliothèque royale comme chercheur, mais également pour le Courrier international de poésie, qui était une revue un magazine, si on peut dire, ou
quatre numéros par an,
donc qui était une revue exceptionnelle qui ratissait très large dans le champ poétique. Il a enseigné donc à l'Université du Québec de 1976 à 1986, et puis par la suite, il a été à Bruxelles, et de Bruxelles, il a retraversé l'Atlantique vers le Mexique, à Mexico, où il a occupé la chaire Roland Barthes de l'Université de Mexico de 1998 à 2000. Il est directeur de la revue L'Étrangère. Il est directeur également des de la Lettre Volée. Et il est également, il participe également au comité éditorial, ou je ne sais trop si c'est le comité éditorial, mais en tout cas, il est très impliqué aux éditions Le Cormier, qui est une maison qui existe depuis 1949 et qui a été fondée par Fernand Véressine. On peut remarquer dans ses titres, outre Fragment des saisons, qui est le seul titre paru au Québec, aux éditions de l'Hexagone en 2008, une quinzaine de titres, autant en poésie que dans les essais. Signalons après, après la montée du jour, Le jour devancé que j'ai devant moi, duquel je m'entretiendrai tout à l'heure, 30 fragments, Fragments de l'éveil. Et également des essais sur autour de, des arts visuels, dont le tout dernier sur un peintre, un très beau livre sur Tibouchi. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais pour l'instant, avant d'entrer plus avant, si je puis dire, dans la rencontre comme telle, on va rentrer de plein pied, c'est-à-dire avec des interventions de Jean-Marc Desjans et Madeleine Gagnon. Alors, on n'a pas déterminé d'ordre. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut se lancer en tout premier?
T'as l'air à me regarder intensément.
C'est assez intense.
Alors, le texte, c'est plus une série de notes, prises à partir d'une note écrite par, par Pierre-Yves. N'ayant pas eu la chance de lire le numéro de Il Particulare consacré à Pierre-Yves, j'ai fait avec les moyens du bord. Alors, le texte, ou plutôt l'ensemble des notes que j'ai rassemblées, s'appelle Intensité, débordement, les territoires possibles de la poésie et de la peinture. Alors, j'ai travaillé, si vous voulez, à mettre en concert justement poésie et peinture, étant donné tout l'intérêt ou les intérêts que Pierre-Yves a montré tout au long, tout au long de sa carrière, tout au long de sa carrière d'écrivain, à joindre justement poésie et pratique picturale. Dans la note de Pierre-Yves, dans laquelle donc j'ai tiré un certain nombre d'idées que j'ai lancées sur papier, il y a un mot extrêmement important, et important pour moi en particulier, c'est le mot « intensité ». La note au complet, c'est « La poésie se révèle doublement à travers l'intensité de la parole » qui la manifeste et par le rapport qu'elle entretient avec le réel, rapport dont l'effet est de la raviver à chaque instant. Donc, le mot intensité, je l'ai, si vous voulez, lié donc, à la fois à l'intensité de la peinture, à l'intensité du réel, c'est-à-dire à l'ensemble des réalités objectives, passées, présentes et futures, comme la fondation des possibles. On peut lire dans Rhizome, par exemple, de Deleuze et Guattari, écrire, on aurait pu aussi écrire le mot peindre, n'a rien à voir avec signifier, mais avec arpenter, cartographier, même des contrées à venir. Et cette citation, je l'ai choisie, cette citation de Deleuze et Guattari, je l'ai choisie aussi parce que, et là je fais de l'autopublicité, vous savez que vendredi, il y a un colloque sur poésie, territoire et identité, où justement le problème des contrées à venir ou des contrées possibles seront questionnés par les différents participants au colloque. Alors, j'ai utilisé un peu comme métaphore, si vous voulez, les vêtements du peintre ou le plancher d'atelier. Or, comme des métaphores de l'excès ou des métaphores de l'excédente peinture, comme les éclats de voix du poème, qui n'existent pas sur la page imprimée, mais qui s'affirment dans l'oreille attentive du spectateur, comme si donc ces éclats de voix étaient des excès du poème, puisque transformer le poème écrit en poème dit, c'est un excédent du poème lui-même, prévu ou non. ce qui est signifiant dans ses excès ou dans ses intensités, c'est qu'ils sont sans intention. Ce sont au contraire des intensités incontrôlables qui disent quelque chose dans la réalité, sur la réalité et de la réalité. Et ce quelque chose, c'est l'affirmation qu'on ne peut pas tout contrôler. Le geste, la retouche, la voix qui rate, la voix qui se perd, l'artiste lui-même ou le poète, par exemple, ou le poète devient alors l'instrument de l'intensité, mais cependant, c'est lui qui gaspille de la matière, des pigments, et c'est lui qu'il y a ses étouffements de voix, ses éclats de voix. Jean-François Lyotard écrivait dans Des dispositifs pulsionnels, « La forme du discours n'appartient pas à la signification, ne relève pas d'une membrure linguistique, elle produit le sens par démembrement et remembrement. » Je recite la phrase de Pierre-Yves Soucy. « La poésie se révèle doublement à travers l'intensité de la parole qui la manifeste et par le rapport qu'elle entretient avec le réel, rapport dont l'effet est de la raviver à chaque instant. Ainsi, la peinture et la poésie renaissent ou se ravivent à chaque fois que le peintre et le poète laissent l'excédent se manifester et transformer un peu plus à chaque fois le réel. » Et à ce niveau-là, on pourrait repenser l'idée que le poème, le tableau, est une sorte d'agression de la réalité ou du réel. Et cette agression par le langage pictural ou linguistique, cette agression à la fois transforme le poème puisqu'il est influencé par, si vous voulez, l'autodéfense de la réalité, mais aussi ce poème et ce tableau transforment la réalité. On ne voit plus la même chose après avoir lu le poème ou après avoir vu le tableau. Et les éclats dont je parlais tantôt, ce sont justement ces éléments, ces éclats de texte qui sont produits par la rencontre vive, intense, dirait Pierre-Yves Soucy, intense donc du poème, du tableau et de la réalité. La parole poétique intense devient alors l'abolition du convenu, de l'entendu, pour se précipiter du côté de l'inouï ou carrément de l'inaudible, loin donc des discours politiques, loin des rhétoriques de la conviction, des stratégies du discours, comme le vêtement d'ailleurs ou le plancher du peintre, sont loin d'être des tableaux, mais deviennent la métaphore du don de soi à la pratique picturale, c'est-à-dire qu'elle, la métaphore, ressemble à l'intensité qui maintenant appartient au tableau, mais tantôt était un corps à corps, et c'est tout ce processus sans intention que révèle tableau ou poème donné en éclat de voix, puisque lire son poème, Pierre-Yves dirait l'intensité de la parole, lire son poème, c'est devant public, écrire autrement le poème, c'est lui donner dans un espace public, donc dans un lieu bien concret, un autre espace de manifestation, et possiblement lui donner une autre possibilité d'être ou être à l'origine de plusieurs réalités possibles.
Merci Jean-Marc. J'ai contrevenu à mon propre plan, je vous prie de m'excuser. Pierre-Yves, est-ce que tu veux nous lire quelques poèmes? On pourra entendre cette intensité de parole déjà après.
On reviendra sur cette idée, oui. Parce que je pense que c'est un aspect extrêmement important, cette idée d'intensité, et qui ne m'appartient pas en propre, il va sans dire. C'est quelque chose, une règle que d'autres ont pensé et ont bien identifié bien avant moi, mais on se situe toujours dans une génération très longue, elle peut avoir jusqu'à 3 millénaires, Et dans cette génération-là, on va chercher, je pense, on devrait pouvoir aller chercher ce qui éclaire le plus pour pouvoir parvenir à faire, à donner un nouvel éclairage qui éclairerait davantage, si je puis dire. Je vais lire un fragment de saison. On pourra revenir sur l'idée de fragment parce que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Fragment de saison qui a été publié à l'Hexagone. Oui, à l'Hexagone, il y a eu deux livres qui ont été publiés. Il y a eu Les Quatre Traversées en 2003, pardon. Je suis toujours 20 ans en retard. Et celui-ci qui est Fragment de saison qui est paru en 2008. Alors, je vais lire Fragment de saison. Ce Fragment de saison est construit sur quatre saisons, parce qu'il y en a quatre, mais qui tente de situer un peu, je dirais, dans quel esprit, je dirais, la saison s'impose, je dirais, du point de vue de la réception de ce qu'elle présente, non pas ce qu'elle représente, mais de ce qu'elle présente. Et je vais lire une partie de la saison du printemps, puisque nous y sommes. Un jour d'avril. Où était-ce l'altération de nos servitudes? L'ébauche, l'écorce, la peau de l'eau et le tranchant du galet, ou même l'odeur de la terre. Le jour sortit des plis des nuages, taillé dans le bleu, la blancheur des reflets se figeait. De l'intérieur, les cours d'eau s'enflaient. Les corbeautières criardes de la décharge, un coup d'aile pour ouvrir le ciel et inonder le jour. Tu te souviens des peurs illisibles qui franchissaient les murs? Elles remontaient les parois des puits. Le fracas des glaces retissait les mailles de nos fardeaux. Non, on ne revenait pas du jour, accordé à nos traces. Il nous précipitait au-dedans. Les mots ont cédé sous les pas. L'entorse semble indéchiffrable. Le jour dort, la brunante viendra le saisir. La lumière s'effondre, l'éclat se vide. L'eau sarclait le jour. Elle s'attardait, orientait la saison à la portée. De la main, au rythme de ses crues. La nuit qui venait usait le jour, elle prévenait l'ombre à l'affût. Déjà elle ferrait les pas sous les pieds. La terre intouchée, l'obscurité du silence menaçait. Les fibres de l'espace que la pluie transperçait, à peine quelques replis de l'air, des paysages frôlés, perdus, quelque part. On ne savait pas, on ne savait plus. Irrigation de la boue odorante des marais, le lac disposait ses glaces pour la musique du vent, le bruissement comme des aiguilles de verre à peine effleurées. Après l'averse, la patience se désagrégeait, nappe de colère, sous le gel de l'enfance. Ressentir cette gêne portée à bout de bras, l'horizon étranger à toute certitude. Si loin, nous étions là, avalés. Nous étions noyés. À croire que la nuit n'allait pas nous détruire. L'heure était aux abois, les yeux dans les mailles, les plis des coulées, les vents lavés, le retour là-bas, le sol sourd soulevé. L'enfance grinçait. Elle répercutait les séquences de la gravitation. Voilà, pour l'instant.
Merci, Thierry. Madeleine?
Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, Pierre-Yves. Je suis heureuse que le marché de la poésie, je remercie Isabelle Courteau du Festival de la poésie, d'avoir pensé honorer Pierre-Yves Soucy, qui est un poète fondamental. J'ai écrit un premier texte dans ma tête, qui est un récit d'une première vie avec Pierre-Yves Soucy. C'est pas qu'on a vécu ensemble, mais on a vécu dans la même maison, dans le même triplex, chacun sur son étage, avec son compagnon, sa compagne. Et à l'époque où Pierre-Yves était professeur de sciences politiques à l'UQAM, et moi j'étais prof en études littéraires. C'est une vie. Et puis un jour, des années plus tard, au marché de la poésie, j'ai revu Pierre-Yves. Et je ne savais même pas qu'il était poète, qu'il écrivait, qu'il vivait en Belgique. Je ne savais rien. Puis je lui ai dit « Êtes-vous le même ?» Et il m'a dit « Oui, je suis le même. » Et à partir de cette seule phrase, j'ai écrit un texte. Cette fois-ci, je l'ai rédigé alors que le récit dans ma tête, il n'est que écrit dans ma tête. J'ai rédigé un texte à partir de plusieurs de tes livres, Pierre-Yves. Et je terminerai ma lecture par une lecture d'un bref poème de Pierre-Yves, extrait de « Après la montée du jour ». Mon titre, c'est « Pierre-Yves Soucy, le même, l'autre ». En fait, je sais combien pour toi, pour t'avoir lu, combien c'est important pour toi la lecture. Donc, c'est une lecture de tes écritures, de plusieurs de tes écritures que je vais lire ici. Êtes-vous le même? Le même et l'autre, par-delà l'océan, les terres, les livres. L'autre le même, en aller, suspendu au fil de l'ombre. Des os, des plumes, des chants du premier temps, dans le sac de lin léger. Toute seule une lettre volée, ses conséquences seulement, la pesanteur, l'envol, la vision de haut, de loin et la proximité quand nécessaire, qui impérative souvent, donner la nuit, le jour, le temps, tel un cadeau. Paysage, paysage, tant du visage où rit ce regard, cet œil de lynx. Sur les mots tracés fins rendus à l'étrangère vers l'étranger de l'enfance. Encre, stylet, sillon sur les arpents de terre perdus. Retour, là, seulement là, en écriture. En tableau peint à la vie, poème, poésie. À l'origine, l'heure des 8 fragments, l'heure de l'abandon a sonné. L'œil de lynx rit. Plus que bouche, l'œil de lynx voit avec les mains. En plein vol, d'abord les mains. Dessine éloigné, 30 fragments, différents, puis du même souffle, l'espace dérobé, souvenir de la première demeure, rêve de nuit, rêve de jour, en plein noir. Comme sous le soleil, on n'en revient pas, la tombe ou l'ombre, on avance corps à corps, avec soulage, dans les infinies prairies, on parle, on prie, on crie, on chante, ne sait plus, toujours. Douce la voix, un filet la nuit, et cette musique des syllabes traversant les frontières, pour capter, il faut la planète entière. C'est aussi le poème symphonique quand la terreur d'éveille, quand fortement appelle l'insatiable langue du silence des lèvres. ça fait du bruit. Était-ce la même maison en bordure d'un parc, cueillie les suites, quand l'air brûle, partir, partir, ne pas courir, soudain apercevoir, voir un aperçu, oblique, ne pas oublier l'œil qui a vu, jamais, ne pas découper, préserver, s'en aller jusqu'aux confins. C'est le nom du pays donné d'une contrée, d'un espace emporté, avec soi pris dans les bras jusqu'à d'une obscurité l'éclaircie. Était-ce la même maison, la même l'autre, qui sait, qui peut oser savoir, supposer savoir, sous la pluie qu'empilent les peines, a sonné de l'aube bénie le gond de la terre traversée, l'écoute, recommencement, les peines à perte de vue, avez-vous entendu le même l'autre se souffle dressant l'attention de sa folie ou non? Oui, je suis ce même. Il vous tend un livre, un autre livre vous donne. Cela par lui écrit, vous lisez. Apprenez du même l'autre reflué ici, là-bas, en allée. Vous apercevez au bord d'un parc, d'un village, épars, les fragments, vous rassemblez. L'œil serré, lui fouillant ce qu'il ne voit pas. Alors l'éclair, à l'œil que tu palpes au centre d'un tremblement, vous devenez l'autre de vous-même, revenez vous aussi à l'enfance, l'étrange, le champ lisse, l'eau, la lumière, être ça, ce qui brûle à l'instant même, vous n'êtes plus que cendre, gravure de feu mourant, pétroglyphes, langue de soleil, pentecôte, fables amoureuses, lorsque le présent se lézarde, devient illisible, traversée des vents, demain, après la montée du jour, il a vu dedans les choses, de soi, d'où l'obscurité se détache. Il dit, ouvrir le jour à l'espace du vent et le vent à l'espace du jour. Ainsi, à l'espace du temps que les cadrans ne se compriment plus, l'écart traversé. Êtes-vous le même? Oui, répondit l'autre et repartit. Puis revint l'espace d'un instant. Les ans n'avaient plus de mystère, les ans, les jours, les heures, ce qui vient de toujours plus loin n'a plus de secret, presque plus de secret, juste ce qu'il faut pour la découverte du monde nouveau ou ancien. Dans la terre neuve, il y a d'antiques demeures, de jeunes ruines dans l'ancien monde, les vestiges, les vertiges, ici et là. Je vais lire un très bref poème. En fait, ce sont trois courts poèmes sur les trois dernières pages de « Après la montée du jour ». Cette blessure d'argile qui reviendra toujours avec l'éclair pour que ton enfance et l'enfance enfantée glissent le long d'un jardin d'ombre. Mais de l'enfance errante revenait le jardin au son d'un piano qui remontait lentement avec le souvenir d'une soirée tiède et qui brûlait. Sur la courbe de tes rêves, dérivant de ses mains, la nuit ouverte à nouveau, sur l'enfance de tes mains, le jour versé dans la nuit maintenant refermée avec le jour.
Merci, Madeleine.
L'autre prétexte, si j'ose dire, de notre rencontre, c'était évidemment la parution dans la revue Il Particulare, excusez mon accent, qui est consacrée au travail de Pierre-Yves Soucy, un grand nombre d'écrivains, de poètes qui font le tour, si je puis dire, ou qui usent du prétexte de Pierre-Yves Soucy pour approfondir son travail. C'est suivi d'un extrait important d'un livre qui est sans doute en préparation. Et il y en a quelques exemplaires sur la table pour ceux que ça pourra intéresser pour aller plus avant. Pour ma part, je vais pour l'instant tout simplement lire le texte que j'ai fait paraître à l'invitation de la revue pour parler du travail de Pierre-Yves, que j'ai articulé autour d'un dernier titre qui s'intitule « Le jour devancé » et qui est paru dans une belle édition aux éditions Montagne froide. Depuis quelques années, quelques décennies, Pierre-Yves Soucy construit une poésie animée par un rapport étroit entre le langage, la pensée, le monde et l'être. Une œuvre des frontières entre l'aphorisme et le poème, comme s'il y avait une synesthésie de la matière à langage dans laquelle s'inscrit une éthique personnelle de la responsabilité qui entraîne le poète vers la critique et la création picturale. Décidément, l'homme n'arrive jamais là où on l'attend. Depuis la première publication, il ne cesse de renouveler cette ligne de tension qui traduit la pensée en image, en rythme, en matière. Poésie matérialiste, mais aussi bien spirituelle, consciente de ne tenir que par la matière. En ceci que la pensée qui est détournée par l'image et restant dans le domaine de l'indéterminé, nourrit une phrase, si je puis dire, toujours à la recherche d'un accomplissement formel, non d'un achèvement, car rien dans la matière ne s'achève jamais, la matière étant mouvement. Dans l'un de ses plus récents livres, donc, Le jour devancé, on dirait qu'un lien organique apparaît entre Amérique et Europe. Davantage, c'est la conscience de sa nordicité. On croit entendre le tumulte sourd de la forêt boréale, souvenir ancien qui déborde l'être, l'écriture ayant depuis longtemps ouvert l'identité à un espace plus large. En livrant la parole du monde son désenchantement ou sa clairvoyance critique, le poème semble s'élever sur ce qui se défait, comme on le dirait d'une défaite et non d'une déconstruction. Et dans ce double passage, le kaléidoscope du temps hante la mémoire des poèmes. Ce qui se défait, c'est une habitude de la pensée, aussi bien qu'une pensée de l'habitude. Penser dans le monde prolonge ces paysages mythiques. Il s'éloigne du concept, par conséquent, par un mouvement de résonance interne. La pensée est une catégorie du rythme. C'est par le rythme que la figure du jour, toujours précédée par le songe, prend forme. J'allais dire, pour Pierre-Yves Soucy, c'est dans un entretien qu'il a donné, la pensée procède du souffle. On pourra y revenir aussi. Chaque livre est un site qui s'offre en lecture. Le poète en explore les possibilités, il laisse en plan les fragments qui seront poursuivis dans le livre suivant, silence fait de sa parole et de ses échos, un embrasement de pensées, de paysages, entre guillemets, mythiques, déplaçant ainsi les assises du poème. Même si le monde se soucie peu de ses mots, le poète pousse plus loin l'aventure de dégager des voies pour entrer dans la parole, pour entrer la parole dans le monde. Chaque exercice interroge le sens même du livre, du territoire, de l'identité. Le territoire du poème traduit en plusieurs strates l'état de la pensée, mais est-ce la pensée du poète ou celle du poème? Il s'en étonne. La parole est en soi le territoire, le mouvement du fond qui remue le poète au cœur de sa vie. C'est une biographie qui est traversée par lambeaux réunis par les chiffres du rythme. Dans le jour devancé, il fait l'objet de dérives de sens, chacun des moments étant lié à une expression, une expérience du territoire. La sensation, ici, est liée à l'exercice de pensée. Elle introduit dans le monde une faille, une ligne de faiblesse et de tension qui maintient la pensée au cœur du temps, sinon de l'époque, en un combat incessant qui presse Orphée vers son exil. Car les mots, comme les hommes, sont en exil, hors d'eux-mêmes, hors de leur enfance et hors du temps. Les mots sont mémoire et objet, sens et matière de sens. Ils attendent l'absence et attestent de l'absent, l'exil de tout oublié. Et précisément, au cœur de la contradiction jaillit l'échappée, le souffle du fond qui se prolonge à notre conscience. L'espace enfin ouvert à l'illimité de la pensée en avance sur le jour. Le poème, patiemment, nous apprend à partager ce paysage. Lieu impératif aussi bien qu'infini, indéfini aussi bien que tangible, les formules figures, finissent dans un entrelac de couleurs verbales, la patience de la voix atteint son plein champ. Il écrit « Lorsque plus rien ne peut s'atteindre, sa voix donne aux défaites la perversité du vide. » Telle est l'articulation de la dysphorie. Ici, le mouvement de fond travaille vers son extériorité et partant mène le sujet à sa disparition. L'incessant met le poète en mouvement, conscient de risquer la mort à chaque pas, le silence à chaque respiration. Ainsi, nous sommes absents à toute durée, condamnés à l'oubli. Le poème ayant acquis pleine mesure, se concrétisant, quelque chose est détruit, perdu. En se constituant en objet, le poème est l'exil réalisé, peut-être. Le poète ressent le froid de la plaine polaire soufflé dans son conte de chant, le chant oublié de sa disparition. Comme si l'attention de la parole consistait à suivre son développement, mot après mot, phrase après phrase, sans autre finalité que la veille séculaire du poète, l'angoisse d'une parole anticipée qui ne peut avoir d'existence que par cette angoisse. La pensée est un chant. Il écrit encore « On pressent la douleur sous la sonde des mots ». Que tiennent donc les mots, pense-t-on, si l'avenir demeure instable? Pourquoi faudrait-il se soucier de l'avenir si le fruit de l'illimité ne parvient à l'exclure que par feinte? La continuité d'un art du langage conscient du filet de vent que constitue le poème occupe toute l'attention du poète dans sa visée. L'inconsolable incantation est la fondation de tout le mouvement. La naissance est refoulée, des demain sans lendemain. Les figures se défont, la brèche où s'est enfoncée l'écriture pour extirper de l'écart intérieur de l'attente l'espace où fonder une démarche, avancer dans les pas déjà absents, une poétique. Et je serais tenté d'enchaîner sur cette question de l'attente, de l'horizon d'attente qui est un motif qui revient très souvent dans les différents fragments, les différents livres. Enfin, commençons avec tout ça et on pourra enchaîner.
Pourquoi l'attente? Pour une raison qui tient à l'expérience même que nous faisons du monde. On dit toujours, je dirais, qu'on va vers le monde, c'est plutôt le monde qui vient vers nous. Et il ne peut venir vers nous, je dirais, que dans la limite des possibilités d'une attente. Et c'est la raison pour laquelle, je dirais, la question, je dirais, de l'attente dans le travail que je fais, qui ne concerne pas seulement que les textes poétiques à proprement parler, mais qui concerne, je dirais, l'ensemble des essais sur lesquels j'ai travaillé, je dirais, depuis plus de 20 ans maintenant. Ça fait plus de 20 ans que je travaille, je dirais, l'essai, et en particulier l'essai dans le domaine littéraire et artistique. L'attente, c'est aussi la tension. C'est la tension également. Et je renoue avec ce que disait Jean-Marc au début. Intensité comporte également cette idée de tension et d'attention. Attendre, c'est être disponible. C'est être disponible pour recevoir, en quelque sorte. Mais cette attente ne peut pas être passive, elle doit être absolument active, c'est-à-dire qu'elle doit être tout le corps, tous les sens doivent être ouverts, je dirais, à cette présence qui est là et qui vient vers nous, qui ne parle pas. Et c'est nous qui parlons pour cette présence, qui parlons à travers cette présence. Et c'est là tout le travail poétique. Pourquoi j'insiste un peu sur ces questions à la suite de ta question, c'est pour cette raison très particulière, c'est que si je n'ai pas une formation à proprement parler dans le domaine littéraire, j'ai pas été formé, je dirais, dans une université, j'ai pas fait un doctorat en études en littérature et en littérature romane, j'ai fait un doctorat en sociologie politique. Et ce qui me tient depuis le départ de ce travail poétique qui m'a touché très tôt, mais que je ne prenais pas avec tout le sérieux que j'aurais dû, tout le sérieux qui aurait dû être là, pour diverses raisons. Le reste, c'est de l'ordre biographique à ce moment-là. Mais il était là, il était présent. C'est le même phénomène qui s'est produit avec le travail plastique. C'était là, très tôt, mais la perspective que je tentais de dégager pour moi-même d'abord, je dirais, et c'est l'objet même de la poésie, c'est de comprendre quelque chose à quelque chose qui est incompréhensible, je dirais, ce monde, je dirais, est incompréhensible, en particulier celui dans lequel nous sommes, qui s'est doublement complexifié, parce que c'est pas seulement qu'un monde naturel, c'est un monde de l'artifice, au sens fort du terme. C'est-à-dire, c'est un monde que nous avons construit, à l'intérieur duquel nous vivons, et nous croyons vivre à l'intérieur de ce monde comme si nous pouvions en donner le sens et en signifier la portée. Or, j'ai été alerté très tôt sur cette idée particulière, c'est-à-dire que si ce monde ne parle pas, il est impossible de parler sans ce monde, pour nous. Et étant impossible de parler, comment parle-t-on ? Et pendant toute l'époque de ma formation dans le domaine des sciences sociales, et je m'intéressais beaucoup aux questions de la linguistique, de ceci, de cela, j'étais frappé par ceci, c'est que beaucoup d'auteurs, beaucoup de critiques ont cru que la langue s'enfermait sur elle-même et qu'on pouvait produire du réel qu'à partir de la langue. C'est pas faux, mais ce n'est qu'une partie de la question. Et donc, c'est sur cet aspect-là, je dirais, que j'ai non pas tenté de travailler d'une manière réfléchie, parce que en tant que poète, on ne travaille pas de manière réfléchie, même si la réflexion occupe une dimension absolument considérable. Mais ce n'est pas la même dimension de la réflexion, de la manière dont la réflexion se manifeste à travers une réflexion sur un objet précis, par exemple les mouvements sociaux. Par exemple, les casseroles dans les rues. On va reconstruire une réflexion autour de ce phénomène-là qui peut nous amener très loin du point de vue de la compréhension du monde social dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais la logique de l'argumentation va être à la fois inductive et déductive. Dans le domaine de la poésie, elle est à la fois inductive et déductive, mais pas du tout de la même manière, on le sait à l'expérience, puisque lorsqu'on place un mot sur une page blanche, il se trouve que ce mot va éveiller tout un ensemble de mots. Ça me permet de me raccorder à ce que tu disais tout à l'heure à propos, je dirais, du sol de l'artiste et de la page blanche que je nomme ici, je dirais, pour le poète, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça va partir, on ne sait pas dans quel sens que ça va partir exactement. On sait qu'il y a une amorce, et cette amorce-là, je dirais, on va tenter de rejoindre, mais en même temps, elle est déjà habitée par tout ce qui a rejoint, ce qui est investi dans le mot. Le mot est clair. Si je prononce le mot chaise ou le mot table, parmi vous tous ici, vous avez immédiatement en tête une quantité incroyable de possibilités, je dirais, de représentation du mot table, de ce que le mot table peut évoquer chez vous. Mais je dirais du meilleur et du pire et de tout. Et c'est infini. La poésie, c'est ça. Il faut, à un moment donné, également, en poésie, faire des choix. Or, j'ai toujours pensé que la langue ne s'enfermait pas sur elle-même. Elle était d'abord, je dirais, ce qui provient à travers les mots du monde. Voilà, ça c'est une première position qui pour moi était extrêmement importante. La deuxième question qui était soulevée maintenant par Jean-Marc, c'est la suivante. L'intensité Je suis parti d'un mot, enfin je suis arrivé. Parce qu'on arrive toujours quelque part et le commencement n'est jamais le commencement. Il est déjà commencé bien avant. Dans la vie, c'est comme ça. Et je dirais dans l'écriture ou dans le travail graphique, c'est exactement la même chose. Je dirais, on commence là où quelque chose avait commencé bien avant nous. Et donc on prend, ni plus ni moins pour utiliser une image facile, je dirais on prend le train en mouvement. Mais on est déjà lancé. Et l'idée d'intensité provient, c'est Dubouchet qui dit quelque chose, André Dubouchet, ce poète qui pour moi je dirais est un poète extrêmement important, qui est peut-être un des poètes majeurs de la seconde moitié du XXe siècle, que j'ai eu l'occasion de rencontrer fortunamente en espagnol, heureusement, et il écrivait ceci dans une question qui lui était posée. Il écrivait ceci, il dit, et après tout, il n'y a que langue à différents niveaux d'intensité. Or, la poésie, ce qu'elle cherche, c'est précisément d'aller au plus haut niveau d'intensité. C'est ça son objectif, si on pouvait parler d'objectif, bien que cet objectif, on en convient parfaitement tous, je dirais, il n'est jamais atteint. On n'y arrive pas. Je dirais, à la limite, on pourrait dire que toute œuvre est un échec. Je ne suis pas original quand je dis ça, et beaucoup d'autres l'ont dit avant moi. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on doit pousser, aux limites des possibilités. On pourrait reprendre dans les traditions littéraires, dans différentes traditions littéraires, que ce soit Emily Dickinson en anglais américain, que ce soit Rimbaud, que ce soit Mandelstam ou Tsvetaïeva. Il y a cette volonté d'aller au bout de quelque chose, mais c'est jamais le bout de quelque chose. C'est toujours, on est un relais. Et donc, c'est cette idée d'intensité qui, pour moi, est extrêmement importante. Et l'intensité ne peut se poser qu'en rapport avec la question que tu posais. L'attente est une exigence fondamentale pour pouvoir aller vers cette intensité ou de remonter. Et là, je dirais, il y a bien sûr une manipulation, au sens non pas péjoratif du terme, de la langue, mais il y a un exercice d'exploration. Tenter de voir les possibilités d'une langue. Et c'est la raison pour laquelle une langue ne suffit sans doute pas, et c'est la raison pour laquelle on est conduit à lire dans plusieurs langues autant que possible, et d'aller chercher ce que recèle une autre langue, à travers notamment la traduction. Qu'est-ce qu'on fait avec la traduction? Dubouchet, elle est très loin dans cette âge. J'avais déjà dit cela à l'occasion d'un festival de poésie ici à Montréal il y a quelques années. Dubouchet, elle est très loin. Il dit, quand on traduit, il n'y a pas de contresens. Il n'y a qu'autre sens. Et ça, c'est ce que portent les langues, les différentes langues, d'une manière toujours un peu décalée, ici ou là. Et dans une discussion qu'il avait avec la traductrice du néerlandais vers le français d'un poète absolument remarquable, fabuleux, qui s'appelle Hans Favreij, qui était ami de Dubouchet, je vous dirais, c'est un type qui est mort à 52 ans d'un cancer du foie, bon, on passe vite. Et Dubouchet disait à la traductrice, il dit, écoutez, la traduction que je fais, c'est une traduction qui est personnelle, et il n'y a personne qui peut se permettre de la modifier. Parce qu'elle voulait l'amener sur des terrains qui ne lui plaisaient pas du tout. Et on pourra aller également beaucoup plus loin. Emily Dickinson a dit quelque chose une fois, a écrit quelque chose qui était absolument, pour moi, absolument fabuleux. Elle dit, avez-vous déjà lu un poème de bas en haut? Et Dubouchet reprend ça, il fait un commentaire, puis il introduit les phrases d'Emily Dickinson. Il dit, il se trouve qu'il se dégage à chaque fois quelque chose de neuf qui n'avait pas été soupçonné dans le sens contraire. Donc, ces rapports entre les mots, c'est pour ça que je donnais l'exemple d'une table ou d'une chaise, je dirais pour chacun de nous, je dirais il y a des évocations qui nous viennent immédiatement. Et les possibilités que recèle la langue sont infinies, bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec cela.
J'allais tout simplement relancer un peu sur cette question-là. C'est-à-dire, la poésie est le dénominateur, on pourrait dire, ou la création, en tout cas, de base de tout ton travail, y compris dans l'édition, y compris dans tes rencontres que tu fais à travers le monde. Mais la poésie, particulièrement, et l'essai, participe toujours de la création, donc, que ce soit l'essai sur Tibouchi, que ce soit sur d'autres textes que j'ai lus de toi, même dans des études. Cette question de l'intensité du poète est toujours là. Comment se ramifient toutes ces choses-là dans ton esprit, y compris pour la peinture maintenant?
Oui, la ramification, on pourrait dire la synthèse en même temps. Et c'est peut-être aussi de là que je suis parti. C'est la raison pour laquelle, quand tu me posais la question, es-tu bien le même? Et oui, je suis bien le même, pour une raison très simple, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir le regard que nous posons sur le monde et la manière d'exister dans le monde, je ne peux pas le concevoir sans être en mesure de reconstruire partiellement, avec toutes les bouts des bouts de planches et tout ce qu'on peut, reconstruire quelque chose qui est de l'ordre d'une synthèse, c'est-à-dire d'une synthèse de sa vie, d'une synthèse de la vie. Et on doit tenir ces morceaux ensemble. Et pour moi, écrire un texte, j'en écris le travail que j'ai fait pour vendredi, la conférence, je dirais que tu as peut-être lu... à ce stade que j'ai envoyé le 15 avril, eh bien, bien sûr, je dirais que j'aborde la question de la mondialisation, de l'universalisation à partir de Rimbaud. C'est une manière d'entrer dans la matière. Mais ce qui me préoccupe d'abord et avant tout, un texte, je dirais, dont la dimension, je dirais, sociale, historique, sociologique, politique, m'apparaît absolument liée fondamentalement avec le travail pas proprement parler de création. Et là, je reviendrai sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est en reprenant les images que tu as utilisées, je dirais, du peintre, de les habits du peintre qui comportent certainement beaucoup de tâches, il y a toujours dans toute création, et y compris dans le travail déductif, si on peut dire, si on peut parler dans ces termes-là d'un texte à dimension sociologique, il y a toujours de l'aléatoire. C'est pour moi, c'est une chose absolument évidente. Et c'est pas par hasard que l'exposition que j'ai faite en mars à Bruxelles s'intitulait « Forme aléatoire ». Il y a toujours de l'aléatoire, je voudrais. C'est précisément dans ces ramifications quasi impossibles qu'on parvient à construire quelque chose qui dégage, j'allais dire, qui dégage du neuf. Mais bon, allons un peu plus loin.
C'est le mot ramification. Ramification est juste. Tantôt, tu parlais de tension et donc d'intensité. En fait, le poème ou le tableau serait donc une sorte de, pas de paradoxe, mais de la rencontre très, très étroite entre la déconstruction, les éclats, etc., et la volonté de construire quelque chose. Et donc, ce qui tient ensemble le poème, c'est à la fois ce qui n'en fait pas partie, d'où le fait qu'une œuvre n'est jamais terminée, ce qui n'en fait pas partie, et en même temps, cette volonté que ça tienne, coûte que coûte, au meilleur du moment, en fait. Donc, c'est pas tellement la ramification, il me semble, que tu devrais utiliser, mais le mot tension entre la perte et la construction, d'une certaine façon.
Je suis d'accord avec toi, bien que l'idée de ramification me renvoie, je dirais, à la diversité du réel. Et à la diversité de la parole qui tente de s'approprier, ou du moins de saisir ce réel. Et là, je dirais, on a affaire à quelque chose qui est tout à fait éclaté, et c'est précisément l'objet d'une œuvre. C'est quoi? C'est de tenter, effectivement, je dirais, de faire tenir ensemble quelque chose qui a du sens et qui peut être rendu intelligible. C'est ça, oui. De ce point de vue-là, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que les ramifications sont considérables. C'est pour ça, je voudrais que être prof en sciences politiques n'est pas incompatible. Regardez Wallace Stevens. Je dirais, c'était un avocat qui était vice-président d'une grande société d'assurance au aux États-Unis au début du siècle jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort pratiquement. Et voilà, Stevens n'a jamais vu d'incompatibilité entre son travail qu'il faisait en tant que grand vice-président d'une grande société d'assurance et son travail de poète, qui est un poète absolument exceptionnel par ailleurs. Et c'est très, je cite, voilà, Stevens, parce que ça me vient en tête à l'instant, mais c'est le poète du réel. Voilà, Stevens, je voudrais, c'est de là qu'il part. Je voudrais, il va s'y tenir accroché, mais ferme jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle il arrive à éclairer, je voudrais, toute une dimension de la vie qui n'était pas évidente du tout, je voudrais, à partir des poètes qui ont plus versé vers l'imaginaire. Et qui ont tenté de se situer à l'intérieur de l'imaginaire, ce qui les conduisait à s'enfermer bien souvent dans un langage, dans une parole. Et en s'enfermant dans ce langage, dans cette parole, je dirais, ils quittaient le terrain où le lien, les liens multiples avec le réel, hein, se trouvaient être court-circuités pour partie du moins. Donc, voilà, je dirais, moi, c'est de là que je pars. Donc, je dirais, pour moi, une étude de sociologie politique, un essai sur... sur le rapport de Rimbaud et l'universalisation dans le cadre de où en sommes-nous aujourd'hui du point de vue de l'identité et de la territorialité. Et pour prendre d'autres exemples, une étude un peu articulée autour de l'œuvre de Jacques Dupin, pour moi, ça me paraît, je dirais, quelque chose qui est non seulement compatible, mais nous devons faire en sorte, en tant que poète, et en tant que gens qui tentent de réfléchir sur leurs conditions existentielles, nous devons faire tenir ensemble cela. Dupin me disait comme ça, il y a 5-6 ans, il dit « tous mes textes sont politiques ». Et je l'ai regardé et je pensais exactement la même chose pour ce qui me concerne. Et pourtant, je voudrais, on pourrait prendre des exemples tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident, bien que Victor Martinez, dans le numéro de Il Particolare, a bien mis en évidence, je dirais, cet aspect-là, sur lequel je n'ai pas à me pencher particulièrement, je n'ai pas à défendre ce point de vue-là. Je dirais, pour moi, c'est quelque chose qui va de soi. Je dirais, nous sommes dans un espace public. Nous sommes, la poésie, c'est la dimension intersubjective à son plus haut niveau d'intensité, si on pouvait dire la chose comme celle-là.
Et j'ajouterais peut-être, parce que c'est un autre aspect important de ton travail, c'est-à-dire aller vers les poètes, vers les artistes, vers les que tu fais depuis 20 ans dans une dimension critique, mais sur le plan humain tout simplement, c'est-à-dire tout ça participe d'un même élan. Tu écris dans un très beau texte qui termine Fragment de saison, qui s'intitule « D'un lieu, de partout et de nulle part », qui est un essai, je trouve... porteur d'autres textes probablement, voire exige un réel travail de création. Et ce travail de création, il est aussi dans la rencontre, dans cette rencontre que tu fais avec les autres, que ce soit sur Tibouchi ou Dubouchet avec qui tu travailles aussi, etc.
On est habité par tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on aurait senti. Ça, c'est ce que je dis dans ce texte en question que tu cites à l'instant. Et les rencontres, bien sûr, ce sont des rencontres qui impliquent nécessairement un regard sur des œuvres, que ce soit poétique, que ce soit le roman. Le roman peut aussi bien atteindre un très haut niveau d'intensité. Je donnerai comme exemple ici Faulkner. Je donnerai comme exemple Hermann Broch dans La mort de Virgile. Il y a des passages dont l'intensité est absolument considérable. C'est absolument étonnant. Et on pourrait continuer comme ça, en citer plusieurs. En d'autres termes, je dirais que ce n'est pas seulement que la poésie qui peut atteindre cela, et la peinture, je dirais, avec Klee ou avec Miro ou avec Gerhard Richter, je dirais, on atteint, je dirais, des niveaux d'intensité qui sont absolument étonnants. Et le regard que nous posons sur le monde à la suite de la reconnaissance de ces œuvres, je dirais, n'est plus le même, il ne sera plus jamais le même. C'est comme ça. Et donc, effectivement, je dirais la rencontre. Pourquoi? Bon, je dirais, effectivement, je m'intéresse aux autres, si on peut dire les choses de cette manière. Je m'intéresse à ce que font les autres, que ce soit dans le domaine, je dirais, de la sociologie, de la philosophie, que ce soit dans le domaine de la peinture, que ce soit dans le domaine de la poésie, du roman ou de l'essai ou de la nouvelle. Il n'y a rien à faire. Ça fait partie de notre monde. Et ce sont des dimensions qui sont absolument essentielles et qui nous permettent de comprendre. Parce que notre objet, enfin, notre ce qui nous motive, c'est de comprendre. Hein. C'est d'arriver à comprendre quelque chose, puis de se situer dans ce monde avec le minimum de compréhension auquel on peut parvenir. C'est ça.
Tu parles d'intensité. Tu cites certains romans, puis on pourrait en citer plusieurs. Et puis, ça me fait penser à ce que Canetti disait dans le métier de poète, mm-hmm. la conscience des mots. Tout grand écrivain, qu'il soit romancier ou dramaturge et poète, à partir du moment où et il explique ce qu'il entend par poésie, à partir du moment où il remplit certaines conditions, il en nomme trois, lui, c'est la capacité de transformer le vivant en un autre vivant, la capacité aussi de transformer ce qu'il appelle les forces du néant, ben là, je l'ai lu en traduction française, mm-hmm. il a écrit en allemand, transformer les forces du néant ou de la mort en forces de vie, et capacité de rendre compte du réel dans un avènement de sens qui n'est donné que par l'écriture. En fait, ce qu'on peut dire de toute écriture, qu'elle soit poétique ou que ce soit l'écriture du roman ou du récit ou de la nouvelle, ou elle existe, l'écriture, quand elle devient souveraine, c'est-à-dire qu'il y a Avant de lire ce que je suis en train d'écrire, le réel m'était donné de telle façon, à partir du moment où je lis ce que je suis en train d'écrire ou de lire chez l'autre, le réel est le même réel est complètement transformé par l'acte même de, c'est ce que déjà Aristote appelait le poiène, c'est-à-dire l'écriture est une fabrique de sens. Alors, je te demanderais peut-être de préciser un peu ce que tu entends par réel. Mm-hmm. Parce que j'ai cru voir chez toi une distinction entre des écrivains qui étaient dans le réel, face au réel, avec le réel, et d'autres qui se seraient, on pourrait dire, réfugiés dans l'imaginaire. Et moi, je suis, dans ce sens-là, je suis... Je suis très lacanienne. Il y a le réel, oui, l'imaginaire, le symbolique, le monde.
Tout à fait. Tout à fait.
Qu'est-ce que tu dirais de...
Écoute, tu poses les bonnes questions sur le fond, sur les enjeux réels, ouais. si je puis dire. Tu poses les questions sur les enjeux réels pour la raison suivante, c'est qu'effectivement, on ne peut pas avoir un rapport au réel sans pouvoir l'imaginer.
Il n'y a pas de réel pur.
Il n'y a pas de réel pur.
Non.
C'est impossible. On est d'accord, je dirais, oui. là-dessus. Il n'y a pas de réel pur, il n'y a pas une réalité qui est là, je dirais, qu'il suffit simplement de s'approprier et de croire qu'on a touché à quelque chose qui est absolument essentiel. C'est jamais comme ça, je dirais. Ça passe. C'est la raison pour laquelle, je dis, on écrit avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on aurait senti.
Oui, ou on peint.
Oui,
mais j'ai
oui,
lu aujourd'hui sûr. Que ben, Soulages, qui disait, c'est un fragment là, que j'ai lu, de Soulages, qui disait... Tout est noir dans mes tableaux, mais je suis parvenue à l'état du noir où le noir devient lumière.
Mm-hmm. Tout à fait.
Et ça, ça arrive avec le mot, l'écriture, quand le réel est traversé par le transport du sens. T'en as parlé, Jean-Marc, la métaphore, le transport du sens.
Mais tu sais, comme moi, je voudrais que beaucoup de poètes, je reviendrai sur Soulages, beaucoup de poètes ont refusé au cours des 20, 30, 40 dernières années de faire appel à quelque métaphore que ce soit, parce que c'était oui. un travestissement oui. du réel. Ils voulaient s'en tenir strictement.
Oui.
Et là, je dirais, moi non plus, je ne monte pas là-dedans, je ne monte pas dans ce bateau-là. Je refuse, je dirais, parce qu'il y a vraiment le travail du poète, le travail de l'écrivain, le travail de l'artiste est un travail de composition.
Oui, de transformation.
De transformation, tout à fait. Et donc, je dirais, moi, je ne suis pas de ceux qui seraient tentés de s'enfermer, je dirais, dans le mythe d'un réel immédiatement accessible. Il n'est jamais immédiatement accessible, je dirais. On a notre propre biographie, mais plus que ça, toute notre capacité à pouvoir saisir le monde passe par un ensemble, je dirais, de médiums pour faire vite, qui font qu'il y a des choix qui se font dépendamment qui peuvent dépendre, je dirais, de notre capacité à discerner, et en même temps, je dirais, des choix qui sont à la limite de l'ordre presque de l'inconscient.
Ben oui, souvent. C'est... Ben toujours.
Oui.
C'est bon, toujours là.
C'est là que je avec toi, si j'avais une différence à marquer, je oui. dirais oui et non. Oui. Bon, voilà, je dirais, c'est ça.
C'est toujours là.
Oui, c'est toujours là. Oui, pour être là, c'est toujours là, ça c'est sûr.
Oui, mais ceux qui... tu parles des théoriciens du réel pur, moi je trouve que c'est... Enfin, c'est une espèce de voie d'évitement pour sécuriser un monde qui est très angoissant, un monde de l'écriture aussi qui est paradoxal, qui est épars, qui est émietté, qui est disséminé, qui est insaisissable.
Tout à fait.
Alors, on peut se consoler d'une certaine façon.
Tout à fait.
Avec des théories comme...
Tout à fait d'accord.
J'ai atteint le réel pur, mmh. et puis je peux le reproduire exactement.
J'ai une certitude.
Oui, ouais. c'est ça.
Et ce réel est là, et il est intangible, oui. alors que c'est pas comme ça du tout qu'on vit le monde.
Non. Et que le travail du poète, de toute façon, s'inscrit d'emblée dans cette incertitude, j'allais dire fondamentale, pour tout ce qu'il a à faire et pour tout ce qu'il veut connaître ou comprendre, comme tu disais tout à l'heure. Avant de poursuivre, est-ce que il y en a parmi vous qui auraient des questions ou des commentaires, brefs? Écoutez, on pourrait poursuivre pendant longtemps, ça fait déjà une bonne heure qu'on est dans cette rencontre, et je vous invite bien sûr à lire ce texte dans Fragments de saison, que j'ai appelé un essai spéculatif, dont la part autobiographique est importante, mais qui ne se limite pas à ça, et dont il doit bien y avoir une suite quelque part, on dirait le foyer d'une poétique faite d'attente, d'incertitude et d'éveil, mais un éveil qui nous rend étrangers à jamais, tu dis en conclusion, avec l'étrangeté sans cesse à venir, dans l'attente, étranger.
Oui. Oui. Ça, c'est ça. C'est ça. Comment dire davantage? Comment commenter cela?
C'est peut-être pas une invitation à commenter comme telle, mais parce qu'il y a d'autres aspects dont j'aurais aimé parler, dont on ne peut pas parler probablement parce que manque de temps sur le fragment, mais la notion aussi d'image de pensée ou de pensée en image de Benjamin ou de d'autres qui, je pense, est un fondement même de ton travail de poète. C'est-à-dire, c'est moins le vers qu'une prose poétique avec des trous, des espaces d'incertitude qui amène le lecteur à se questionner lui-même sur cette étrangeté qu'il porte lui-même, probablement.
T'es le premier à le formuler aussi clairement, toi, je dirais, à ma connaissance. Et je pense que c'est ça. C'est ça. Je suis dans... Je ne peux pas, de quelque manière que ce soit, prononcer quelque certitude que ce soit. Je ne peux pas. Ça ne veut pas dire, je dirais, que on ne peut pas, je voudrais, saisir le monde et voir, je voudrais, que cette réalité-là peut être vécue de telle manière et non pas de telle autre manière, parce qu'il y a une possibilité de la vivre d'une autre manière. Mais la vie, dans cette complexité, dans la complexité qu'elle représente, elle nécessairement, je dirais, tu ne peux pas t'avancer dans la certitude de quoi que ce soit. C'est tout le champ, par exemple, social-historique. Qu'advient-il, je dirais, qu'est-ce que l'historicité, qu'advient-il de l'histoire, je dirais, dans le contexte québécois actuel, depuis 3 mois, par exemple. Mm. On ne sait pas, je dirais, il y en a un qui croit, je dirais, qu'il va pouvoir enfermer ça à l'intérieur d'une loi. Moi, je ne suis pas tout à fait certain, je dirais, qu'il connaisse les implications, et surtout, je dirais, qu'il soit à la hauteur, je dirais, de la société qu'il est censé politiquement gérer, comme on dit aujourd'hui.
Oui, oui.
Voilà, toi, je dirais, l'histoire, elle est ouverte, le monde est ouvert, je dirais, et quand on regarde, je dirais, les incertitudes du point de vue de la recherche scientifique à proprement parler, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils sont en train de s'engueuler, je dirais, sur les trous noirs. Oui. Existe-t-il ou n'existe-t-il pas?
Le fond noir.
Oui, bon, là, c'est une question, je dirais, il y a des questions. Par bonheur, nous pouvons poser des questions, tenter des réponses, et c'est à partir de ces réponses qu'on doit concevoir comme jamais définitives. Elles ne peuvent pas l'être. Elles peuvent guider pendant, je dirais, un temps historique X, parfois sur un temps long, parfois sur un temps intermédiaire, parfois sur un temps court, un certain nombre de de guide, si on peut dire, dans la vie, dans la science, etc. Mais on ne peut jamais dire, mais voilà, je voudrais, maintenant, on a nos certitudes, allons-y gaiement. Je dis, non, quand même, ça n'a jamais été comme ça. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas dans l'ordre de la croyance de quelque manière que ce soit. Je pense que c'est assez évident à partir de ce que j'ai dit. Et pour moi, ça m'apparaît quelque chose de tellement aberrant. Parce que là, c'est une fermeture de la vie, carrément.
Dis-moi, Pierre-Yves, est-ce que tu veux nous lire un bref passage des inédits qui sont en cours?
Ben, c'est-à-dire, j'avais apporté un texte que j'ai écrit sur la neige, figurez-vous. Et il se trouve que je l'ai très mal imprimé. C'est-à-dire que mon imprimante avait pu, et je ne l'ai pas constaté. Je voudrais tout simplement lire un passage ici d'une suite qui s'intitule Fragment, justement, s'intitule Fragment de l'attente, Fragment de la veille. Ce sera plutôt Fragment de la veille, de veiller. Et ce texte est un texte qui fait 130 pages environ, qui est inédit. J'ai donné une suite pour le numéro d'Il Particolare, et je voudrais justement lire un passage qui concerne cette dimension qui va, je dirais, de l'ordre de la poésie, au sens où tu l'as indiqué tout à l'heure, et de l'ordre, je dirais, d'une réflexion sur les conditions sociales historiques dans lesquelles nous sommes. Je pars un petit peu avant les passages que vous saurez identifier très rapidement. Ce que la voix aura chanté semble avoir été perdu. La lumière est musique de l'espace. La nuit prolongée amplifie sa veille. Dedans la voix, aucun abri. Que d'inconnus dans les yeux, marchant au pire. Tout y revient et repart. Lorsque d'une ligne ou d'un mur qui se vide, l'on anticipe, se sent à l'affût qui retentit et l'on échoue, lassé, captif et sans prise. Que témoignent ces cendres sortant de la bouche. Une fois par refus, puis toujours, nomade, ici ou là, debout, et toujours contre. La tribu qui charge la bouche, des habitudes de ses mots, de la terreur de ses murs, de l'ordre de ses chants, paroles parades d'entraves, paroles pulvérisées pour que rien ne bouge, à si bon compte. Elles macèrent leur grammaire, délivrent leur patience et dorment en leur veille. D'autres lieux reviennent, confondent les cris des hordes. Plus de corps, plus de mots pour tenir, le sommeil sur les épaules, le vide parfois. De qui doit, par les confins entrevus, par les désirs recouverts, ériger le corps des récits où transpirent les tourbières du sommeil tenu en échec. Leur intrigue dérive, assèche les cratères sous nos pas, leur aveu les désarme. À l'arrêt, la chair retranche, déjointe, les ferments des énigmes. Lorsque s'échappent les lendemains, repris aux veilles, que se dispersent leurs prédictions, la trame opaque des murs, retenue à leur socle, recueille les paroles, leur imposture, afflux d'ordre qui dévaste même nos rébellions. Voilà, merci.
Merci Pierre-Yves.